L'étude de notre sujet de la révélation progressive du nom de Dieu par la lecture de deux versets. Le premier dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 13. Qu'une créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Dieu nous connaît très bien. Évangile selon Jean, au chapitre 17, au verset 3. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dieu nous connaît très bien, mais la vie éternelle, c'est que nous le connaissions. Et il n'est pas possible de connaître Dieu si Dieu ne se fait pas connaître. Et Dieu s'est fait connaître en Jésus-Christ. Dieu s'est fait connaître par sa parole, mais avant la parole de Dieu. Avant qu'une lettre soit écrite de cette parole que nous avons entre les mains, Dieu s'est fait connaître par son nom. Car Dieu a révélé son nom à l'homme. Quelle est l'importance du nom dans la Bible? Pour nous, le nom de quelqu'un, c'est une étiquette qui nous permet de nous distinguer les uns des autres. Dans la Bible, c'est tout autre chose. Le nom est trois choses différentes. D'abord, le nom est la personne elle-même. Lorsque un homme naît, on lui accorde un nom qui correspond soit avec une caractéristique de sa naissance, soit encore à une sorte de prophétie. Jacob était bien nommé. David, le bien-aimé, était bien nommé. Salomon avait aussi un nom qui correspondait à son état. Un homme nouveau porte aussi un nouveau nom. Abraham est devenu Abraham. Jacob est devenu Israël. Parce que le nom est la personne. Et nous voyons dans Josué 7, verset 9, que de retrancher le nom veut dire éteindre une race. Le nom, c'est la personne. Mais deuxièmement, le nom, c'est aussi la révélation intime de la personne. C'est la révélation du caractère de la personne. Le nom est ce qui est connu d'une personne au point de vue de ses qualités, de son caractère. Moïse, parlant à l'Éternel, rappelle les paroles de Dieu à son égard. Il dit: Tu as dit, dit Moïse à Dieu, je te connais par nom. Ce n'est pas seulement que Dieu connaît le nom de Moïse. Ça signifie que Dieu connaît Moïse intimement, qu'il en connaît les caractères. Enfin, troisièmement, pour abréger, le nom signifie la présence active de la personne dans la plénitude de son caractère. Regardons dans 1 Rois chapitre 18, au verset 24. C'est donc Élie qui se trouve sur le Carmel avec les faux prophètes. Et vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui répondra par le feu, lui sera Dieu. Et tout le peuple répondit et dit: la parole est bonne. Élie fait du défi du Mont Carmel un défi entre deux noms, le nom du faux Dieu et le nom de l'Éternel. Ainsi, ce nom présent et invoqué à ce moment-là est la présence active de la personne qui va agir en fonction de son caractère à ce moment-là. Et nous voyons par ces trois définitions que le nom tel que nous le lisons dans la parole de Dieu a un sens beaucoup plus vaste que l'étiquette que représente le nom chez nous. Et cela explique aussi pourquoi, dans bien des circonstances, on parle du nom de l'Éternel et non pas simplement de l'Éternel. Car le nom de l'Éternel signifie un ensemble de caractères, une révélation globale, presque plus vaste que Éternel, simplement. Le nom de Dieu est donc la personne de Dieu et la révélation intime de Dieu et la présence active de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu se présente sous trois noms principaux. Le premier est le nom El, E-L, ou Eloah, ou le pluriel Elohim. Le deuxième est Yahvé, ou Jéhovah, et le troisième est Adonai. Il y a pour les deux premiers des combinaisons qui se font et que nous aurons l'occasion d'examiner ensemble. Nous allons maintenant considérer quelques noms de Dieu en relation avec des événements bibliques. Le premier nom de Dieu qui est mentionné, nous le connaissons bien, nous en avons déjà parlé deux fois, se trouve au premier verset du premier chapitre du premier livre de la Bible, Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Dieu, Elohim. Elohim créa. Elohim est un pluriel, et le verbe est un singulier. Nous avons donc déjà là, non seulement un pluriel de majesté, comme cela se dit dans certains cas, mais quelque chose de plus profond, montrant deux choses. D'une part, que ce Dieu multiple est aussi un Dieu singulier. Elohim, à cet égard, est un singulier pluriel, si vous me permettez l'expression. Et d'autre part, El, est un mot commun dans les langues sémitiques. On employait elle pour n'importe quel dieu. Mais le dieu révélé ne s'appelle pas simplement elle, il s'appelle Elohim. Distinction que nous retrouvons dans Jésus, qui était un nom commun à cette époque, mais qui est marqué d'un sceau particulier. Elle, Elohim, ou Eloah, c'est le Dieu suprême, la déité dans son sens absolu. Dès le deuxième chapitre, le nom de Dieu change. Est-ce un autre Dieu ? Oh non, c'est le même. Le récit est le même. Les circonstances sont les mêmes, mais le nom de Dieu est différent. Que trouvons-nous ? Au deuxième chapitre et au verset 4, ce sont ici les générations des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés, au jour que l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Il est tout à fait nécessaire que nous comprenions que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de différence par hasard. Il n'y a pas de détail. L'Éternel Dieu n'a pas le même sens que Dieu. L'Éternel Dieu, c'est Yahvé ou Jéhovah Elohim. Elohim est le Dieu suprême, l'être suprême, l'être par essence. Mais Yahvé, Jéhovah, est Dieu en relation avec l'homme. Et dès que l'on va parler de l'homme qui est dans le jardin d'Éden, que Dieu va préparer un jardin pour l'homme, le titre de Dieu devient Yahvé Elohim. Yahvé est une relation, une alliance avec l'homme. Il n'y a pas de petits détails ni de hasard dans la parole de Dieu. Si nous passons à Genèse 14, au verset 17, nous arrivons à l'histoire d'Abraham. Dieu s'est révélé jusque-là comme El, être suprême, et comme El est Elohim, et comme Yahvé Elohim. Mais voici que Abraham, de retour de combat, au chapitre 14, Genèse chapitre 14, et au verset 17, et comme Abraham s'en revenait après avoir frappé Kedor Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Dieu Très-Haut, c'est El Elyon. Et il le bénit et dit, « Béni soit Abraham de par El Elyon, possesseur des cieux et de la terre. Et béni soit El Elyon qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends les biens pour toi. » Et Abraham dit au roi de Sodome, « J'ai levé ma main vers l'Éternel, Yahvé, le Dieu Très-Haut, El Elyon, possesseur des cieux et de la terre. » Voilà Abraham rencontrant un homme dont nous connaissons par l'Épître aux Hébreux toute l'importance, qui est sacrificateur de El Elyon, un nom de Dieu qu'Abraham n'avait jamais entendu. Voilà une révélation toute nouvelle, non pas d'un Dieu nouveau, mais d'un caractère nouveau de Dieu. Et quelle est la réaction d'Abraham? Il va donner la dîme de tout ce qu'il a à Melchisédek. Un sens d'adoration, je m'en vais me détacher de ces biens matériels, et nous le verrons dans sa conversation ultérieure avec les rois de Sodome. Je veux me détacher de ces biens matériels, j'ai rencontré celui qui est le Dieu Très-Haut, ce caractère extraordinaire de Dieu, eh bien je donne la dîme de tout. L'importance de ce nom El Elyon pour Abraham est frappante. Sommes-nous aussi touché quand nous découvrons un nouveau caractère merveilleux de notre Dieu ou de notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham, devant la découverte de El Elyon, donne la dîme de tout à Melchisédek. Mais tout de suite, quand il se trouve en face des rois de Sodome, il dit « Je lève ma main vers Yahvé, l'Éternel qu'il connaît, El Elyon, possesseur des cieux et de la terre. » Tout de suite, il associe Dieu, Yahvé, qu'il connaissait, et ce El Elyon qui vient de lui être révélé, c'est le même Dieu. Ce n'est pas un autre Dieu, c'est le même, mais je viens d'en découvrir un nouveau caractère. Et voilà pourquoi Dieu se révèle progressivement à l'homme. L'homme découvrant ainsi des nouveaux caractères de Dieu, et l'adoration devant monter vers Dieu de manière plus intense. C'est cela la raison de la révélation progressive des noms de Dieu. Afin que nous connaissions Dieu de manière plus intime. Mais Abraham va découvrir un Dieu plus proche de lui encore. Et nous voyons au chapitre 17 et au premier verset, Abraham était âgé de 99 ans, et l'Éternel, Yahvé, apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis El Shaddai. Marche devant ma face et sois parfait, et je mettrai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai extrêmement. » Genèse 17, les deux premiers versets. Je suis El Shaddai. Pour la première fois, Dieu s'adresse lui-même à un homme pour donner son nom, pour se révéler à ce patriarche, père d'autres patriarches, Isaac, Jacob, et il va recevoir ce nom, Abraham va recevoir ce nom de la part de Dieu, El Shaddai. Notre traduction dit Dieu Tout-Puissant. Et c'est bien ainsi. Mais il y a, paraît-il, une autre connotation dans El Shaddai, c'est Dieu Tout-Suffisant. Un Dieu suffisant pour répondre aux besoins de ses patriarches. Un Dieu qui va pouvoir les nourrir. Un Dieu qui va pouvoir les fortifier, les protéger, les satisfaire entièrement. Aussi un Dieu qui discipline. Dans le livre de Job, on rencontre ce nom de Dieu, ce Dieu tout-puissant de El Shaddai 40 fois. C'est donc un Dieu qui a aussi ce caractère de discipline. Et Abraham va découvrir cette nouvelle facette de Dieu qu'il connaissait comme Yahvé, comme Elohim, comme El Elyon. Maintenant, il le découvre comme El Shaddai. Mais il y avait encore une révélation supplémentaire. C'était la signification profonde de ce nom de Jéhovah ou Yahvé que déjà les patriarches avaient employé, mais Dieu va se révéler à Moïse. Et nous allons lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, une rencontre bouleversante. Depuis plusieurs centaines d'années, le peuple d'Israël émigré en Égypte ne connaissait plus bien Dieu. Et Moïse lui-même, élevé certes par ses parents pendant quelques mois, ou peut-être 2 ans, ensuite élevé à la cour d'Égypte, que connaissait-il de Dieu? Bien sûr, son beau-père avait pu lui en parler, mais il se trouve dans le désert, gardant les troupeaux, et il va faire une rencontre extraordinaire. Moïse va voir un buisson ardent, il va s'approcher du buisson, et Dieu va s'adresser à lui, verset 6 du chapitre 3. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse cacha sa face, car il craignait de regarder vers Dieu. « Je suis l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Ceci, Moïse a dû en entendre parler. Dieu se met à la portée de Moïse. Mais ensuite, Moïse lui dit, « Bien, mais quel est ton nom ?» Et nous trouvons cela au fin du verset 13. « Voici quand je viendrai vers les fils d'Israël et que je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous » et qu'ils me diront, « Quel est ton nom ?» Que leur dirai-je ? Il est, paraît-il, intéressant de savoir que ce « quel » est ton nom, lequel, n'est pas simplement « qui » est ton nom. Moïse ne veut pas simplement connaître l'étiquette, mais « quel est ton nom ?» Ton nom va me révéler quelle nature. Qui es-tu, Dieu ? Quel est ton nom ? Avons-nous déjà rencontré dans notre vie des gens qui posaient cette question de Moïse, avec peut-être les mots d'aujourd'hui, mais « qui est Dieu ? J'aimerais le connaître. » C'est la question de Moïse, « quel est ton nom ?» Et Dieu va faire une révélation extraordinaire. Il va faire une révélation qui va être éternelle. Au verset 14, « Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il dit, « Tu diras ainsi aux fils d'Israël, « Je suis m'a envoyé vers vous. » Je suis. C'est ce nom de Yahvé, de Jéhovah. C'est le vrai nom de Dieu. El, Elohim, était un nom commun, comme Dieu est un nom commun, c'est un Dieu. Adonai, dont nous parlerons un peu, est un signe de respect, c'est Seigneur. Mais Yahvé, Jéhovah, est le nom propre de Dieu. C'est son nom. Celui qui va être inclus dans ces 10 commandements où on dira « Tu n'emploieras pas le nom de l'Éternel, de Yahvé, ton Dieu, en vain. » Dans notre traduction, nous avons traduit « Jéhovah Yahvé » par « l'Éternel », traduisant ainsi ce côté de « je suis, celui qui suis », c'est-à-dire la permanence, l'être par lui-même. Nous sommes tout à fait conscients que lorsque nous parlons des qualités de Dieu, notre intelligence est de loin pas suffisante pour approcher même un peu qui est Dieu. Mais si Dieu a pris la peine de se révéler ainsi, quel intérêt il y a pour nous de nous y plonger, d'essayer de comprendre un peu mieux ce que Dieu a bien voulu nous révéler. Jéhovah ou Yahvé est donc l'être éternellement présent, la permanence, c'est aussi le Dieu de la rédemption, le Dieu de la fidélité. Et il ne se révèle pas seulement à son peuple comme tel, il veut être connu aussi aux Égyptiens. Nous voyons en Exode 7, verset 5, « Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Après avoir vu en Exode 6, verset 7, « Et vous saurez que je suis l'Éternel. » C'est le désir de Dieu que nous sachions, que ce peuple sache qu'il est Yahvé. Ce nom. En Exode 6, au verset 2 et 3, nous avons un verset intéressant et qui peut poser quelques problèmes, nous voulons l'aborder rapidement. Et Dieu parla à Moïse, donc Elohim parla à Moïse et lui dit, « Je suis Jéhovah, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai. » Mais je n'ai pas été connu d'eux par mon nom Jéhovah. Qu'est-ce que cela signifie, alors que nous trouvons 146 fois le nom de Jéhovah ou Yahvé dans la Genèse? Cela signifie que la révélation de la nature de Dieu à travers ce nom de Jéhovah ou Yahvé n'avait pas encore été donnée. Le nom était connu, mais la révélation de la nature de Dieu n'avait pas encore été connue avant cette révélation que Dieu avait donnée à Moïse. Ainsi, le nom était connu d'Abraham, et nous le voyons, employé par Abraham, Isaac et Jacob. Mais la nature profonde demandait une révélation spécifique du « Je suis celui qui suis ». Et cela n'avait pas encore été donné au peuple d'Israël. Un élément concernant l'Éternel des armées, c'est le dernier nom que nous trouvons dans l'Ancien Testament avec Adonai, le nom éternel des armées qui se retrouve à partir du premier livre de Samuel, c'est-à-dire à partir de l'instauration de la royauté, est un nom spécifique, dirait-on, pour ce qui s'est passé du temps de la royauté. Le roi et le peuple d'Israël s'étaient organisés avec un roi au-dessus d'eux, alors que le peuple jusque-là avait Dieu au-dessus d'eux. Et Dieu, dans cette organisation, s'intitule l'Éternel des armées. Quelles armées? Ce ne sont pas simplement des armées d'hommes, c'est aussi l'armée des cieux, c'est l'armée cosmique, c'est l'armée angélique, ce sont ces armées de la création tout entière dont Dieu est le Dieu. Et voilà la signification de l'Éternel des armées qui va être cet Éternel puissant, capable d'aider une armée israélite en difficulté, capable d'aider un roi, capable d'aider quelqu'un qui, dans ce peuple, serait en difficulté. Nous aimerions prendre maintenant un exemple d'une prière de David, où David, dans le deuxième livre de Samuel, emploie plusieurs noms de Dieu. Et ceci nous montrera quelle est pour nous-mêmes l'utilité de la connaissance de ces noms. 2 Samuel, chapitre 7, verset 18. Et le roi David entra et s'assit devant l'Éternel, donc Jéhovah, et dit, « Qui suis-je, Seigneur Éternel, Adonai, Jéhovah ? Et quelle est ma maison que tu m'aies amenée jusqu'ici ? Et encore cela a été peu de choses à tes yeux, Seigneur Éternel. Tu as même parlé de la maison de ton serviteur pour un long avenir. Est-ce là la manière de l'homme, Seigneur Éternel ? On sent le respect de David lorsqu'il s'adresse à Dieu. Et David pourrait-il dire, te dire de plus, et toi, Seigneur Éternel, tu connais ton serviteur. C'est à cause de ta parole et selon ton cœur que tu as fait toute cette grande chose pour la faire connaître à ton serviteur. C'est pourquoi, Éternel Dieu, Yahvé Elohim, la puissance de Dieu apparaît. C'est pourquoi, Éternel Dieu, tu t'es montré grand. Car il n'y en a point comme toi. Il n'y a point de Dieu d'Elohim si ce n'est toi, selon tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Et qui est comme ton peuple, comme Israël, seule nation sur la terre, que Elohim soit allé racheter, afin qu'elle lui soit un peuple, et pour se faire un nom à lui-même, et pour opérer en leur faveur cette grande chose. Nous pouvons voir jusqu'à la fin de ce chapitre, comme David a une perception intime de Dieu. Et comment, dans ses conversations avec Dieu, que sont ses prières, David ne répète pas un nom pour un autre. Il a un contact intime avec Dieu, il le connaît bien. Et nos prières. Employons-nous le nom de Dieu qui nous vient à l'esprit indifféremment comme un synonyme, que ce soit ce nom nouveau dont nous parlerons, révélé, qui est le Père, que ce soit Dieu, que ce soit peut-être Seigneur. Sommes-nous ainsi appauvris par le manque de connaissance du nom de Dieu? Nous voyons dans cette prière de David, nous voyons combien David était proche de Dieu, combien il aimait, connaissait, ressentait Dieu. Comment il devait s'adresser à Dieu, Seigneur éternel, ou éternel Dieu, ou plus loin, éternel des armées, ou encore Seigneur. Il y a toute une connaissance intime de David avec Dieu. Et que se passe-t-il après? Nous voyons David, il frappe Moab, il frappe Tsoba, il frappe les Syriens, il montre sa grâce au chapitre 9. Voilà un homme de Dieu qui est arrivé à une compréhension, une communion avec Dieu qui lui permet ensuite de recevoir les bénédictions de Dieu. Ainsi, Dieu s'est fait connaître comme Elohim, El Elyon, El Shaddai, Yahvé, Yahvé Sabaoth, qui est éternel des armées. Et pendant des siècles, les Israélites vont méditer ces différents noms de Dieu. Et ils vont les respecter, ces noms de Dieu, et en particulier ce nom suprême de Yahvé, Jéhovah, ce tétragramme sacré dont on a déjà parlé. On écrivait les quatre consonnes et on prenait un respect presque superstitieux devant cette écriture. Mais à la fin de ces jours-là, Dieu nous a parlé dans le Fils. Hébreux chapitre 1, verset 1. Et quel allait être le nom du Fils de Dieu ? Ésaïe, au chapitre 9, en avait bien noté quelques-uns sous l'inspiration de Dieu. Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Et on appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. Voilà des noms qui avaient été mentionnés des siècles avant sa naissance. Mais nous lisons dans Luc au chapitre 1er le nom qui lui sera donné. Luc chapitre 1er, versets 30 à 32. C'est l'annonce de l'ange. Et voici, tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils. et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé fils de Élion. Cet Élion que Abraham avait découvert avec Melchisédek, cet Élion qui était le Dieu connu des nations, eh bien, cet Élion, ce nom, est repris dans l'annonce de la naissance de Jésus. Il sera le fils de ce Dieu connu des nations. Déjà dans l'annonce, on voit que ce fils-là ne sera pas un fils uniquement pour Israël, c'est un fils qui sera ouvert aux nations. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il règnera sur la maison de Jacob à toujours. Seigneur Dieu, c'est le Dieu dont déjà Moïse avait appris à connaître le nom, Jéhovah, Dieu, comme nous le voyons en note. Ainsi, nous avons cette liaison déjà dans l'annonce de l'ange entre Jésus, qui est le fils de ce Élion, Jéhovah, Dieu. Quelle chose merveilleuse! Il n'y a rien qui soit par hasard dans la parole de Dieu. Ce nom Jésus. Jésus veut dire Jéhovah Sauveur. Yahvé Sauveur. Ce nom de Jésus est un nom au-dessus de tout nom. Et pourtant, c'était à l'époque un nom relativement commun. Et Dieu a pris ce nom commun pour en faire un nom au-dessus de tout autre nom. Dieu peut faire de chaque homme, c'est un parallèle par rapport au nom, pas par rapport à la personne divine de notre Seigneur, mais Dieu peut faire de chaque homme un homme rempli de l'Esprit de Dieu, un homme qui peut être transformé par l'Esprit de Dieu et qui peut marquer son temps et son époque grâce à l'Esprit de Dieu qui l'investit. Ce prénom de Jésus est rempli de ce que Dieu veut lui donner comme signification et devient un prénom, un nom au-dessus de tout nom. Jésus est aussi le Christ. Loin, le Messie attendu depuis des siècles. Et nous voyons au chapitre 2 de Luc, au verset 25, l'histoire de Siméon, qui était un homme juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Il avait été averti divinement par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement il n'eût vu le Christ du Seigneur. Et lorsqu'il rencontre Jésus, il dit, verset 29, « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Jésus-Christ, dans toutes les épîtres et tous les écrits des écrivains qui ont connu Jésus sur la terre, c'est toujours dans cet ordre, Jésus-Christ. Et ce n'est que l'apôtre Paul qui parfois intervertit, et même fréquemment, Christ-Jésus. Pourquoi ? C'est parce que tous ceux qui ont connu Jésus sur la terre l'ont connu en tant que Jésus avant de le reconnaître comme Christ à la résurrection. Alors que l'apôtre Paul croyait dans le Messie avant de connaître Jésus. Ainsi, les écrivains des Épîtres ont appelé Jésus-Christ, alors que l'apôtre Paul, dans certains cas, l'appelait Christ-Jésus. Mais nous voulons lire dans les Philippiens, au chapitre 2, verset 5. « Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quelle puissance dans ce nom de Jésus, puisque c'est à ce nom que se ploieront tous genoux. Mais rappelons-nous, frères et sœurs, que dans Matthieu 18, verset 20, c'est à ce nom-là que nous sommes réunis à deux ou trois et que le Seigneur est au milieu de nous. C'est à ce même nom qui est ce nom devant lequel se ploieront tous genoux des êtres célestes, terrestres et infernaux, c'est vers ce nom-là que nous sommes appelés à nous réunir, par exemple demain matin. Quel nom glorieux que celui-là, et c'est celui-là qui est ce nom qui nous attire lorsque nous allons rendre culte. Est-ce bien cela qui nous attire quand nous allons rendre culte? Ce nom qui est la révélation des caractères divins de notre Seigneur. Non seulement la personne du Seigneur, comme nous avions l'occasion de le dire tout à l'heure, mais encore la révélation de ses caractères. Et nous sommes réunis au nom du Seigneur. Il y a une autre chose que le nom du Seigneur, auquel le nom du Seigneur nous fait penser. Combien souvent, à la fin de nos prières, nous disons au nom du Seigneur Jésus, Amen. Ça ressemble plus aux salutations distinguées qu'à une invocation du nom du Seigneur. Et il conviendrait peut-être que nous soyons attentifs à l'utilisation du nom de Jésus. Et l'utilisation du nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh certes, le Seigneur lui-même, dans l'Évangile selon Jean, nous invite à prier en son nom. Oui. Mais encore, quelles sont les prières que nous faisons monter vers lui et que nous avons parfois l'audace de terminer par l'invocation du nom du Seigneur? Prenons garde et soyons simplement attentifs à ne pas employer cette expression si solennelle, de ne pas l'employer à la légère. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas à l'employer, au contraire. Mais prenons garde à la manière dont nous l'employons. Et Jésus, venu sur la terre, va nous révéler le nom ultime de Dieu, celui qui est pour nous un tel réconfort. C'est le nom de Père. Jean chapitre 20, verset 17. Jésus dit à Marie, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est le nouveau nom de Dieu. Celui que les chrétiens prononcent sans frayeur et en confiance, car Jésus a tout accompli pour que désormais Elohim soit Père, Yahvé soit Père, El Shaddai soit Père, El Elyon soit Père. Et par trois fois dans le Nouveau Testament, une fois dans la bouche du Seigneur lui-même et deux fois dans les Épîtres, nous avons cette expression « Abba, Père ». Abba est un nom qui s'apparente à « Papa », c'est de l'araméen, mais il paraît que c'était un nom que les esclaves ne pouvaient pas employer pour le chef de maison, quelle que soit la proximité et l'intimité de l'esclave. C'était exclusivement la prérogative des enfants. Et combien cela nous parle que nous puissions appeler Dieu Abba. Mais Abba n'est jamais employé seul. Les trois fois qu'il est employé, il y a toujours après Père. Pourquoi Abba, Père? Abba, ce sont les premières syllabe prononcée par un bébé, Abba. Et c'est la confiance profonde et non raisonnée qu'un enfant peut avoir vers son père. Le père, par contre, est une confiance raisonnée que l'on peut avoir vis-à-vis de son père. Et ainsi, cette expression « Abba, père » est en même temps cette foi simple, irraisonnée, devant certains événements dont nous ne comprenons pas la signification pour le moment, mais c'est mon père. Ayant donc en main l'Ancien et le Nouveau Testament, nous avons donc une révélation complète du nom de Dieu et de la personne de Dieu pour nous qui sommes sur la terre. Mais l'Élohim singulier pluriel s'éclaire enfin dans le dernier verset de Matthieu qui nous est mentionné dans l'introduction au verset 19. C'est le Seigneur qui parle. « Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Pour le nom. Et voilà comment s'éclaire Elohim, pluriel singulier ou singulier pluriel. Le nom de ces trois personnes, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À la veille du dimanche matin, où nous allons demain matin entourer le Seigneur et élever la louange vers Dieu, notre Père. Nous allons lire un dernier verset et nous méditerons ensemble, en silence, ce verset qui sont les paroles de la conclusion de Jean 17 et nous mesurerons dans la limite de nos cœurs et de notre intelligence, mais sous l'action de l'Esprit, le prix payé par notre Seigneur pour que ces paroles puissent être prononcées en vérité. Jean 17, verset 26. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux.
Le premier chrétien avait donc comme signe de ralliement, comme cryptogame, un poisson dont les initiales en grec, ICHTHUS, font allusion à Jésus Christ, THU, Fils de Dieu, Sauveur. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Jésus, on en a parlé. Jésus Sauveur, l'éternel Sauveur. Et en même temps, au nom de Jésus que nul ne sonde. On l'a souvent répété, même le Seigneur dit dans Matthieu, n'est-ce pas, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Il ne dit pas celui à qui le Père voudra le révéler. Et pourtant l'apôtre Paul dit, pour le connaître lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, paraît y avoir une contradiction, mais ce n'est pas tout à fait le même verbe. Pour le connaître lui, c'est le verbe connaître. Mais personne ne connaît le Fils, c'est connaître à fond. C'est comme dans Corinthiens 13, nous connaîtrons à fond comme nous avons été connus. Personne ne connaît à fond le mystère de la personne du Seigneur Jésus, Fils de Dieu, Fils de l'homme, Christ, Sauveur. Même quand il apparaîtra dans sa gloire, n'est-ce pas, il est roi des rois, Seigneur des seigneurs, la parole de Dieu, le fidèle, le véritable, mais il porte un nom que nul ne connaît que lui seul. C'est pourquoi il faut la plus grande révérence quand on veut, est-ce qu'il faut dire, s'introduire dans ces noms qui nous sont révélés, qui nous sont présentés, et prendre la parole comme elle nous dit les choses, sans vouloir ajouter, sans vouloir retrancher bien sûr, et sans vouloir aller plus loin non plus de ce qui nous est révélé. Dans la première épître de Jean, il y a la triple confession. Celui qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, son humanité. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, sa divinité. Et celui qui croit que Jésus est le Christ, premier verset du chapitre 5. Ces trois noms, venu en chair, homme, parole, faite chair, et puis Fils de Dieu, Fils éternel du Père, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et enfin le Christ, celui qui est oint. Alors depuis quand est-il oint? Et on a ce verset, n'est-ce pas, le Proverbe 8, où dans notre traduction, il est dit, lire le verset ensemble, Proverbe 8 au verset 23, « Dès l'éternité, je fus établi, dès le commencement, dès avant les origines de la terre, je fus établi, et dans la note, il est dit « oint » ou « Christ ». Christ veut dire « oint ». Alors, il y a toute cette doctrine qui n'est pas nouvelle, mais enfin qui a cours aujourd'hui, que il est devenu le Christ à son baptême. Alors déjà au deuxième siècle, il y en avait qui disaient, les Ébionites, il est devenu fils de Dieu à son baptême. Non, il est fils de Dieu de toute éternité. Tu m'as aimé, Père, avant la fondation du monde. Et il a été oint dès avant les œuvres d'ancienneté. Alors, il est oint comme sacrificateur, ça c'est après sa résurrection, il est devenu sacrificateur. Il est oint comme roi, qu'il doit régner, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et il est oint pour son service, alors c'est bien le baptême. Il est oint comme serviteur, mais il était le Christ de toute éternité. Mais il est devenu le sauveur. Il est devenu le sacrificateur. Alors, ayant été Hébreu 5, n'est-ce pas, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, Hébreu 5, 9, l'auteur du salut éternel, étant salué par Dieu souverain sacrificateur, il est devenu l'auteur du salut, il est devenu le sauveur, ayant accompli l'œuvre de la croix, il est devenu le sacrificateur, ayant vécu comme homme sur la terre, ayant été élevé dans la gloire. Et alors, de toute éternité, il est Fils, et il est Christ, il est Dieu. Au commencement, Dieu, au commencement était la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. On l'a dit souvent, éternel dans son existence, au commencement était la parole. Divin dans son essence, et la parole était Dieu. Mais distinct dans sa personne, il était au commencement auprès de Dieu. C'est le mystère de la Trinité qu'il ne faut pas sonder plus qu'il ne convient. Notre frère en a parlé depuis Genèse 1, Elohim créa, jusqu'au nom du baptême, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Avec cette pensée de la révérence qui est de mise devant le nom de Jésus, j'aimerais citer simplement ce verset 35 d'acte 8. Il est dit de Philippe, quand il va prononcer ce nom, Philippe ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture, lui annonça Jésus. On sait bien que pour parler, il faut ouvrir la bouche. Mais il y a certainement une intention de l'Esprit de Dieu dans le fait que la chose est donnée comme cela. Philippe ouvrant sa bouche. On ne prononce donc pas le nom de Jésus n'importe quand et n'importe comment. Et je crois rejoindre en cela ce qui a été précisé dans l'introduction. Quand Élie, en Job 32, va parler de la part de Dieu, Il est dit de lui au verset 18, il dit lui-même, « Je suis plein de paroles, l'esprit qui est au-dedans de moi me presse. Voici mon ventre est comme un vin qui n'a pas été ouvert, il éclate comme des outres neuves. » Mais remarquons le verset 20, « Je parlerai et je respirerai. » Il y a un point virgule. « J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. » N'avons-nous pas là encore cette même pensée, la révérence qui est de mise quand on prononce le nom de Jésus? Quand on lit quelque chose et quand on médite quelque chose de la part de Dieu, Pierre parle de l'oracle de Dieu. J'avais simplement à cœur ces deux passages qui me semblaient faire suite à ce qui a été dit.
L'apôtre Paul, lorsqu'il prononce ses épîtres, l'adresse aux différentes assemblées, eh bien, on est frappé de voir que chaque fois, il nous parle d'une part de Dieu comme Père, dont il apporte la grâce et la paix. Eh bien, il les apporte de la part de Dieu, notre Père, et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Jésus comme Seigneur, avec l'autorité qui est la sienne. Et c'est beau de voir que, par contre, lorsque il s'adresse aux Thessaloniciens, ce n'est pas la grâce et la paix qu'il leur apporte, mais d'entrée, il se plaît à reconnaître chez eux ces qualités merveilleuses dans lesquelles ils sont et dans lesquelles la conversion les a introduits. L'assemblée des Thessaloniciens en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Privilège de ces jeunes convertis dans la foi. Ils connaissaient désormais Dieu comme Père, cette relation si douce et bénie entre toutes. Et puis, tout à la fois, ils reconnaissaient la Seigneurie de Jésus, auquel était due toute louange, mais aussi tout le respect, toute l'adoration.
À Dieu, lui apparaissant dans le buisson ardent, et quel est ton nom? Et en particulier, il dit au verset, dans ce chapitre 3 de l'Exode, au verset 13, quand je viendrai vers les fils d'Israël et que je leur dirai le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous et qu'ils me diront quel est son nom, que leur dirai-je? Et la réponse de Dieu. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Une phrase qui, du point de vue grammatical, ne paraît pas exacte. Et pourtant, elle est dictée par le Saint-Esprit et ce sont bien les paroles que Dieu a prononcées. Il est celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et il est très remarquable de voir que dans le Nouveau Testament, à trois reprises, il y a dans les paroles que le Seigneur prononce quelque chose qui rappelle cette manière dont Dieu a révélé son nom à Moïse. Lorsque, dans la tempête, les disciples crient en le voyant arriver, croyant que c'est un esprit, un fantôme, il leur dit « C'est moi, ayez bon courage ». Or, dans le texte original, exactement, c'est « Je suis ». Et puis, je crois que c'est en Jean 8, lorsque il s'entretient avec les docteurs juifs et leur parle d'Abraham, il peut leur dire, parce qu'il le conteste, il peut leur dire en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Non pas j'étais, mais je suis. C'est l'éternel présent. Jean 8, 58. Et puis, lorsque les suppôts de Judas viennent l'arrêter et lui demandent, quand c'est le Seigneur, nous voyons cela en Jean, leur demande, qui cherchez-vous? Jésus, le Nazaréen. C'est moi. littéralement, de nouveau, je suis, je suis. Le Seigneur était ainsi absolument identifié à Dieu, dirons-nous, même quand il était homme. Et nous pouvons recommander à cet égard la lecture d'un ouvrage bien connu de notre frère Bellette, La gloire morale du Seigneur Jésus, où il fait ressortir dans d'innombrables passages du Nouveau Testament cette dualité, si je puis m'exprimer ainsi, d'un Christ homme, mais d'un Christ qui était Dieu en même temps. Il était l'éternel « Je suis » tout en étant le Fils de l'homme. Nous avons là un mystère de nouveau, mais qui fait ressortir la grandeur de ce nom du Seigneur Jésus.
Je l'en pourrais dire quelque chose du cantique de Moïse dans Deutéronome 32. Il parle de Dieu sept reprises.
Au verset 3, je proclamerai le nom de l'Éternel. Et en rapport avec Exode au chapitre 6, sauf erreur, il nous est parlé de Dieu qui parle à Moïse et qui dit « Je suis l'Éternel, je délivrerai, je rachèterai, je vous prendrai pour être mon peuple et je vous serai Dieu et je vous ferai entrer dans le pays. » Puis attribuer la grandeur à notre Dieu, dans le sens dans lequel notre frère a parlé, Elohim, un Dieu absolu. Il est le rocher, c'est le troisième. Son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justice. C'est un Dieu fidèle. À la note, il nous est parlé, enfin, il y a un astérisque qui nous dit que c'est elle, le Dieu fort. Dieu fidèle, juste et droit. Et puis au verset 8, quand le Très-Haut partageait l'héritage aux nations, c'est Élion. Et puis au verset 15, le sixième, mais Jéchurun s'est engraissé et a regimbé. Tu es devenu gras, gros et replet, et il a abandonné le Dieu qui l'a fait. Et il a méprisé le rocher de son salut. Il a abandonné Dieu, c'est le Dieu suprême, Eloah, singulier d'Elohim. Et ce qui est remarquable pour finir, et c'est le septième titre que nous avons relevé, c'est que ce Dieu dont nous avons parlé, au verset 39, il dit, voyez maintenant, que c'est moi, moi le même. Et il est remarquable de dire à la note, je suis celui qui suis. Cette expression devient un vrai nom de Dieu. Je suis le même.
Le livre des Chroniques, chapitre 10, 18, en rapport avec Josaphat, on voit que Dieu manifeste ce nom de deux façons différentes. Au verset 31, à la fin du verset, lorsque Josaphat était dans la détresse, entouré par l'armée des Syriens, et Josaphat cria, et l'Éternel le secourut. Et puis, et Dieu les porta à s'éloigner de lui. L'Éternel, le nom éternel, comme nous l'avons dit, fait ressortir ses rapports avec son serviteur, la façon dont il s'était révélé à lui, et puis Dieu nous parle de sa puissance, de la puissance de Dieu, qui a porté les ennemis à s'éloigner de lui.
On nous a rendu sensibles au grand nom de Dieu et également du Seigneur et au discernement qu'il convient d'avoir. Et cela est important dans nos prières. Et pourtant, il me semble que nous avons une note d'encouragement dans le livre de la Genèse au chapitre 16, où nous trouvons là une pauvre servante qui a bien peu entendu parler, qui a entendu parler de Dieu chez son maître qui était Abraham, servante remontée d'Égypte et qui vient d'être renvoyée, et à qui Dieu va se révéler au bord d'un puits, chapitre 16 et au verset 13. Et elle appela le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, Tu es le Dieu qui te révèle. Verset 14, c'est pourquoi on a appelé le puits Berlakairoi, c'est-à-dire le puits du vivant qui se révèle. C'est au bord de ce puits qu'Isaac sera au chapitre 24, méditant à l'approche du soir. C'est au bord de ce puits qu'avec son épouse Rebecca, chapitre 25, il viendra demeurer. Verset 11 du chapitre 25, Isaac habitait près du puits de l'Akairoi, le puits du vivant qui se révèle. Il a été pour elle, cette pauvre femme, le vivant qui se révèle. C'est un nom tout particulier. Ça correspond pour elle à un contact particulier avec Dieu. Et si nous avons eu dans notre vie personnelle un moment de contact personnel avec Dieu et une réponse particulière de Dieu, c'est un moment que nous n'oublierons pas. Et ce que nous lui avons dit et ce qu'il nous a dit marquera une étape dans notre vie. Ça a marqué pour Agar une étape. À ce moment-là, il s'était révélé à elle. Elle lui donne un nom qui pour le moment est entre elle et lui, et que d'autres à sa suite lui donneront, faisant la même constatation qu'il est toujours le vivant qui se révèle.
Le titre de ce chapitre 5 de notre schéma nous est dit la révélation progressive du nom de Dieu et les relations qui en découlent avec lui. En effet, on a entendu à chaque révélation du nom de Dieu correspond une relation plus intime. Je pense pour expliquer cela avec un exemple à une fille qui travaille dans un bureau. Il y a son directeur. Elle appelle monsieur le directeur. Elle a crainte de lui. C'est un homme rigide, sérieux. Après quelque temps, il y a une sympathie entre les deux. Et monsieur le directeur lui dit, mais on peut se tutoyer, on devient ami. Alors ça change, ce n'est plus monsieur le directeur, c'est Jean, par exemple. C'est toujours le même, c'est toujours le directeur. Mais il y a une relation plus intime. Alors elle commence à connaître plusieurs choses de lui. Elle-même lui confie quelque chose d'intime, ses pensées, ses désirs, ses angoisses, ses problèmes. Puis les deux se fiancent. Alors sont les deux fiancés. Alors il y a encore une autre relation, plus intime. C'est toujours monsieur le directeur, c'est toujours le même nom. Mais alors entre eux, il y a des noms plus affectueux, des noms qui se donnent eux comme ça. À la fin, ils se marient. Alors c'est son mari. Il y a une autre relation, plus intime encore. Toutes choses est ensemble, unies, une même chair. Mais tous les problèmes de l'un sont aussi les problèmes de l'autre. Mais il reste toujours son directeur parce qu'il travaille quand même au bureau. C'est pour expliquer un peu ces différentes relations père. C'est toujours le Dieu créateur. C'est toujours celui qui est le Tout-Puissant. C'est toujours l'Éternel, celui qui dit « Je suis », mais c'est notre Père. Différentes relations, une intimité plus grande, mais il reste celui qui est dans toute sa grandeur. Et ici aussi, les révélations successives n'ont pas annulé les révélations précédentes. Et alors nous connaissons Dieu comme Père, mais il est tout ce qu'il est, tout ce que nous avons vu dans les différentes étapes de cette révélation.
Et ce Dieu qui habite dans la lumière inaccessible s'est révélé à nous. À la fin de ce jour, nous pouvons bien le dire avec une plus grande sûreté, le Dieu qui aucun homme n'a vu, qui habite la lumière inaccessible, s'est révélé à nous et il nous a révélé son nom. Dans un psaume, il nous a dit que c'est celui qui habite les ténèbres profondes. C'est Dieu qui habitait dans le lieu très saint, où il n'y avait ni de fenêtre, ni la lumière du chandelier. Il habitait dans les ténèbres profondes. Mais l'apôtre Paul nous dit qu'il habite dans la lumière. Eh bien, c'est dans la lumière que nous le connaissons maintenant. Et c'est dans la lumière que nous le connaîtrons beaucoup mieux qu'aujourd'hui.
Dans Galates 1, verset 15. Mais quand il plut à Dieu, tu m'as mis à part dès le ventre de ma mère, et tu m'as appelé par sa grâce de révéler son Fils en moi. Pour confirmer cette révélation progressive.
Nous sommes très privilégiés de connaître Dieu comme nous le connaissons aujourd'hui. Et d'avoir sa parole qui nous le révèle ainsi. Mais il y en a beaucoup sur la terre qui n'ont pas cette parole, qui n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ. Mais ont-ils une révélation, une connaissance de Dieu, malgré tout? Je crois que c'est intéressant de relever ce que nous dit Paul, au chapitre 1 des Romains, où il est dit que, au verset 19, parce que ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté, car depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, savoir et sa puissance éternelle, et sa divinité se discerne par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites, c'est-à-dire la création. Et il est intéressant de voir que dans le premier chapitre de la Genèse, c'est ce Dieu tout-puissant qui crée, et dans le cas que nous avons ici de tous les hommes qui n'ont pas eu connaissance de la parole de Dieu, eh bien Dieu se révèle aussi à eux par ce Dieu créateur, par la création. Mais quelle grâce pour nous de le connaître comme nous l'avons vu ce soir.
Et nos relations progressives nous amènent à une connaissance toujours plus intime avec Dieu. Cette intimité n'exclut jamais, comme on l'a dit déjà, cette crainte à laquelle nous sommes invités dans l'Épître aux Hébreux, où il nous est dit, recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et révérence. Et un peu plus loin, il nous est parlé de Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Et cette relation intime, on a parlé tout à l'heure de cette expression de Abba Père. On nous a dit qu'on la retrouve deux fois dans les Épîtres. D'abord dans les Galates, où c'est l'Esprit, parce que vous êtes fils et non plus esclaves, vous avez l'Esprit. Et nous pourrions lire cette expression en Galates 4 simplement, mais c'est le verset 6, « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant « Abba Père », de sorte que tu n'es plus esclave, mais fils. » C'est l'Esprit de Dieu envoyé dans nos cœurs, criant « Abba Père ». Et dans Romains 8, où nous trouvons également nous crions avec lui. En Romains 8, nous trouvons au verset 15, car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit pour être de rejet de la crainte, mais l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, par lequel nous crions Abba Père. Cette relation d'intimité, c'est l'esprit qui est en nous, qui dit Abba Père. Et nous disons avec l'esprit qui est en nous, Abba Père. Mais étant ainsi amené dans cette relation d'intimité, pouvoir donner cette expression de Abba Père, pouvons-nous oublier la circonstance unique relatée dans la parole dans laquelle le Seigneur le disait à son Père? C'était dans le jardin de Gethsémané. Jamais, tout au cours de son ministère, les disciples n'avaient entendu cette expression de la bouche du Seigneur. Dans le jardin de Gethsémané, au moment de l'agonie, quelques moments avant l'abandon, il s'écrie à son Père dans ce terme le plus intime qui soit, et que la parole a voulu nous révéler, Abba Père. Est-ce qu'on ne rejoint pas là cette relation d'intimité mystérieuse pour nous dans l'éternité? J'étais son nourrisson. C'est le nourrisson qui s'adresse au Père. Proverbe 8. J'étais les délices, ses délices. Et là, Gethsémané, en raison de cette relation d'éternité, en raison de cette intimité, Abba, Père, fais passer cette coupe loin de moi.
C'est dans les moments de grande souffrance, d'affliction, les moments d'épreuve, quelquefois terribles, physiques ou morales et même spirituelles. Quel bonheur d'entendre le Seigneur comme tout à nouveau nous dire ces mots si simples que « Ma foi de petit enfant saisie, ton Père sait, votre Père sait, ou bien le Père lui-même vous aime. » Il y a les choses les plus belles, les plus grandes pour moi, dans la parole, me semble-t-il, sont toujours dites avec des mots si simples qu'un tout petit enfant peut les connaître. Et ce sont celles-là qui nous ont fait du bien, et ce sont celles-là qu'il nous faut dire à ceux qui souffrent. On n'a pas besoin de les expliquer. Je pensais encore à cette intimité dans laquelle nous sommes, tous ensemble, collectivement, nous sommes appelés, et c'est en rapport avec l'histoire de notre ami, la femme de l'agneau, pas du Christ, de l'époux, de l'agneau, de celui qui a souffert, qui s'est donné pour nous. N'est-ce pas? Quelle intimité! Nous entrerons dans ces souffrances, nous comprendrons un jour ce que nous ne pouvons pas comprendre maintenant sur la terre où nous ne connaissons qu'en partie. Alors jaillira la louange, jailliront l'adoration, nous nous prosternerons et j'ai pensé quelquefois que si nous aurons des harpes dans le ciel avec des cordes accordées parfaitement, nos cœurs aussi seront accordés tous ensemble et vibreront au rythme du sien.